Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun, ceux que je n'aurais pas salués. Je propose, nous allons faire une lecture dans la deuxième épître, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 4. Le sujet que nous allons aborder, et il y aura probablement un prolongement, eh bien, pour une fois suivante, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur, c'est un sujet qui peut être embarrassant. Oui, je préfère vous le dire tout de suite. Premièrement, c'est un sujet d'étude biblique. Comme Paul sait les enseigner, comme nous les trouvons à travers ses épîtres, ça peut être embarrassant et ça peut être une formidable expérience de développement de notre vie spirituelle. C'est l'un ou l'autre. Parce que je voudrais quand même m'entretenir avec vous sur ce que peut consister un engagement religieux, disons-le comme ça, ou alors un engagement chrétien qui est animé par la vie de l'esprit. C'est deux choses différentes. Et je crois que ceux qui sont nés de nouveau, et pour la plupart d'entre vous, vous l'êtes, voire certainement par surcroît baptisés du Saint-Esprit, il n'y aura pas de problème pour vous. Maintenant, peut-être ceux qui sont en recherche, et ceux qui peut-être se battent et sont en dualité au niveau de leur vie spirituelle, dans leur âme, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conscience, ça peut être une très bonne occasion pour vous, finalement, de passer dans une nouvelle dimension. Parce que le Seigneur nous enseigne à marcher de progrès en progrès. Et puis, il y a la troisième catégorie, si nous pouvons dire ainsi, ceux qui se contentent peut-être d'une vie religieuse, voilà, le culte le dimanche matin, et c'est très bien, c'est formidable, et puis donc une participation peut-être en pointillé, alors peut-être que vous allez dire que ça ne vous convient pas. Mais moi, je voudrais vous inviter à passer dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire d'avoir des aspirations spirituelles. Aspirer aux choses d'en haut, alors à ce moment-là, vous allez découvrir peut-être une nouvelle page de votre vie, une nouvelle dimension que l'on appelle la liberté dans la grâce de Dieu. Écoutez bien, la liberté dans la grâce de Dieu, parce que je sais que tout le monde ne possède pas cette liberté. L'apôtre Paul, en lettre de feu, nous laisse cette parole. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ouais. Et ne retournez pas à ces rudiments de l'ancienne vie, voire d'une piété religieuse et tout ce que vous voulez. Mes frères et sœurs, il faut avancer. Il faut progresser. Il faut se développer. Et le Seigneur est là pour nous aider. Alors, à ce titre, nous allons faire deux courtes lectures. 2 Corinthiens chapitre 3. Et vous allez comprendre mon propos. 2 Corinthiens chapitre 3. Deuxième épître aux Corinthiens. Alors moi je cherche aussi, si ça peut vous rassurer. Le verset 4 et le verset 5. Cette assurance-là, comprenez, cette foi-là, cette grâce dans l'esprit, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes. Donc, l'apôtre Paul met tout de suite, eh bien là, en quelque sorte, nous met tout de suite dans la pensée, c'est que nos efforts et nos mérites, nos qualités d'homme, ça ne vaut rien. Soyez pas choqués, vous allez comprendre. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et puis, il nous a aussi rendus capables d'être ministres, d'être disciples, d'être chrétiens, d'une nouvelle alliance, quelque chose de nouveau, non de la lettre, mais de l'esprit, car, retenez bien, ça va être l'élément, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je rappelle, une nouvelle alliance, non pas selon la lettre, entendez par là selon la loi, mais de l'esprit avec un grand E, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et puis une autre lecture dans Galates chapitre 5 et au verset 4 à 5, c'est très bref. Et c'est dans ce même chapitre où il est question de la liberté, et c'est Christ qui nous a donné la vraie liberté. Et au verset 4, je prends un peu plus loin. Et là, c'est en quelque sorte une réflexion sérieuse, voire même solennelle. Paul écrit, vous êtes séparés de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous n'appartenez pas à Christ? Vous n'êtes pas chrétien? Encore moins disciple? Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification, ou la justice, dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est terrible ces paroles. Moi je crois que ce sont les paroles les plus terribles qui puissent s'adresser à une église comme celle de Galates, parce qu'ils étaient retournés en arrière. Parce qu'après avoir commencé par l'esprit, ils avaient fini par la chair. Après avoir commencé par l'esprit vivifiant de Christ, ils étaient terminés dans un christianisme religieux. Sans aucun intérêt. Pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Or, il y a toujours cette association dans le Nouveau Testament de la justice selon la loi Ancien Testament et de la justice selon la grâce et la foi dans le Nouveau Testament. Et quand il s'agit de la justice, c'est une justice dans l'esprit, par la grâce et dans la foi. Alors, on va pouvoir commencer notre méditation et dire quelques mots. Je vais employer des mots qui peuvent éventuellement, peut-être, vous les avez peut-être considérés comme une gloire, mais ce n'est pas une gloire. Je voudrais le rappeler, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, mes frères. Nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens. Autrement, on nous appellerait judaïsants. On n'est pas juifs. On est chrétiens, ça vient du nom Christ, et nous sommes rentrés dans cette autre dimension de liberté. Donc, je voudrais vous parler en quelques mots de l'attitude typique ou caractéristique du légalisme. Ah, j'ai dit le mot, vous allez l'entendre. Le légalisme. Et je donnais quelques pensées. Quelqu'un qui vit sous la loi en pensant plaire à Dieu, qui vit sous la loi et qui y obéit à la lettre, parce que quand vous regardez la définition du dictionnaire, ce que j'ai fait avant de venir vous voir, eh bien c'est vraiment une scrupulosité, une méticulosité à faire les choses avec beaucoup de précision, beaucoup de perfectionnisme. Je cite le mot à dessein. Celui qui obéit donc à la loi, à la lettre, peut se débrouiller assez bien. Dans l'Église, c'est un chrétien. Dans l'Église, il peut être consacré. Il peut se porter à différentes services spirituels, matériels, l'aide avec auprès des uns et des autres. Alors, en apparence, il peut donner l'image d'être épanoui spirituellement. Il est là, il est présent, et voilà, tout simplement. La discipline et les exigences auxquelles ce chrétien légaliste soumet sa vie peut donner l'impression d'une vie sainte. Ouais, c'est pas lui qu'on retrouvera dans, je ne sais pas, en ivresse, qui fera des choses qui, quelque part, choquent la morale, et quelque part, dans les choses les plus grossières, certainement pas. Certainement pas. Et on peut dire, mais il a une vie sainte. Ou une sainte vie, si vous aimez mieux. C'est un homme pieux. Je voudrais préciser une chose, c'est que la loi, le légalisme a aussi sa gloire. Eh oui. Il a aussi sa gloire, parce que figurez-vous que quand Moïse est descendu du mont Sinaï, non pas avec un message de grâce, mais un message de loi, les tables de la loi, qu'il a brisées d'ailleurs, hein, eh bien, il est descendu du mont Sinaï, et les Israélites qui étaient restés dans la plaine l'ont vu descendre avec une gloire. La loi a une gloire. Et il s'est caché le visage pour peur qu'on ne voit pas son rayonnement. Qu'on ne voit pas, finalement, ce contact qu'il avait eu dans le cadre, naturellement, de l'Ancien Testament. Mais vous avez remarqué que quand on lit le texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 13, il a mis un voile. Et personne n'a pu s'apercevoir ce rayonnement divin, en quelque sorte. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'au bout d'un certain temps, il est obligé de l'enlever, le voile. Parce que le légalisme se dissipe très vite, comme le voile de Moïse. À un moment donné, il n'y avait plus rien, il l'avait perdu. Ça s'est dissipé assez vite, parce que la sainteté de la lettre, du légalisme, en apparence, est généralement transitoire. Et à un moment ou à un autre, soit nous restons coincés en parking, mais très longtemps, dans ce légalisme chrétien, ou alors nous allons avancer, nous allons rentrer véritablement dans une dimension nouvelle, qui va nous ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, et nous allons vivre. Nous allons vivre non plus sous le poids de la culpabilité, des péchés depuis des années que vous avez demandé à Dieu, que Dieu vous a pardonné, mais vous ne croyez pas qu'il vous a pardonné. Alors évidemment, ça encombre. Hein. Ou toutes sortes de choses, on en reparlera. Des craintes et des peurs que vous avez en tant que chrétien, alors que le Seigneur nous a offert sa joie et son affranchissement. Où nous voyons parfois des frères et des sœurs qui sont là à courber le dos en disant « Mais la vie chrétienne, c'est si difficile !» Ah non, c'est pas difficile. Quand on a bien compris le sens des choses, c'est une libération, mes frères et sœurs. C'est un bonheur, c'est une joie, c'est un enthousiasme. D'ailleurs, le mot « enthousiasme », je vous le répète à dessein, vient du mot grec « enthousiasmos » et ça veut dire « Dieu en soi ». Alors, soit Dieu est avec moi, soit il est en moi, ou il est à côté de moi, ou il est parti. Donc, je disais que la loi a aussi sa gloire, mais c'est transitoire, tout simplement. C'est ainsi que souvent on a enseigné dans les églises. Moi, je n'enseigne pas ça. Et vous le savez, ça fait des années que nous partageons avec vous. Je suis dans le respect et l'admiration de l'Ancien Testament pour les leçons qu'il nous donne, mais je vis dans le Nouveau Testament. Et je pourrais dire, si vous le voulez encore l'entendre encore une fois, je ne reste pas dans le bourgeon de l'Ancien Testament parce qu'il est fermé, mais nous sommes appelés à vivre dans la fleur et l'épanouissement de la fleur du Nouveau Testament, de l'Évangile en Jésus-Christ. Et moi, c'est ce que je voudrais pour vous, pour chacun d'entre vous. Je sais que pour la plupart, vous y êtes parvenus. Mais peut-être certains sont encore profondément malheureux. Et peut-être devons-nous parler comme ça, comme Paul parlait aussi comme ça. Dans son contraire, la gloire de l'esprit, donc de la grâce, ne régresse pas, elle augmente, puisqu'il nous est dit à un moment donné, c'est Paul qui le dit, ancien pharisien, ultra conservateur, intégriste, c'est lui qui le dit, que la grâce, eh bien, se développe de plus en plus, et comme il l'écrira à un moment donné, il dira, mais grâce pour grâce, qui nous emmène à la gloire de Dieu. Alors ça ne régresse pas. Pour cette raison simple que la grâce ne régresse pas, c'est que la vraie sainteté de vie ne consiste pas dans une vie qui cherche à se conformer à ce que d'autres attendent de nous. Vous n'avez pas peur de moi, non? Moi, je vous laisse libre. Moi, je vous responsabilise, mes frères et sœurs, parce que c'est votre affaire. Je vous accompagne. Nous pouvons vous donner les conseils si vous les demandez. Mais une chose qui est certaine, il faut que vous le sachiez, c'est que il faut que nous devenions des hommes faits en Jésus-Christ et non pas des petits-enfants. Les petits-enfants, ils ont leurs parents et les parents savent faire ce qu'il faut faire pour qu'ils deviennent des hommes. Mais spirituellement, que ce soit un pasteur ou que ce soit finalement une église, c'est pas dans la crainte de dire si je fais ça, si je fais pas ça, ceci, cela, qu'est-ce que vont penser les autres ? L'apôtre Paul disait, mais moi, je me juge pas. Je me juge de rien. Il avait une bonne conscience, tout simplement. Et c'est souvent dans le contexte de l'Église que on se fait du mal. Tu devrais, ceci, cela, etc., etc. Est-ce que nos frères et nos sœurs qui traversent ces moments douloureux ont-ils une conscience? Parce que la conscience, c'est Dieu qui parle à notre conscience. Et il y a des choses dans les fautes dans lesquelles nous savons, avant que les autres nous le disent, nous savons déjà nous-mêmes. Par une certaine culpabilité latente qui est là, etc. Au lieu de dire, nous ferions de dire à Dieu, Seigneur, nous prions pour lui, ou nous prions pour elle. Alors, ça n'est pas à se conformer à ce que d'autres attendent de nous, pour paraître, ou être chrétien, ou reconnu comme tel. Moi, l'Église, c'est pas un terrain d'exercice, où je me dire, ben voilà, dans la semaine, je suis ceci, mais le dimanche, attention, hein. Vous avez vu, j'ai mis un beau costume, hein. Une cravate, une chemise toute neuve, que j'ai achetée en solde. Oh, qu'est-ce que je suis en train de... Oh là là, je suis en train de vous dire des choses. C'est terrible. Bon, vous avez tout oublié. Cette sainteté de l'esprit jaillit spontanément, sans effort, sous l'action sanctifiante de l'esprit de Dieu, mais qui est en nous. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous, mais il est en nous. Christ en nous. Et en plus, vous êtes assis doublement. Vous êtes assis ici et vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous le savez, hein, ça aussi. Or, la seule manière d'y accéder à cette position n'est pas la volonté ou l'effort conditionné ou autre manifestation ou mobilisation d'énergie humaine, mais le seul moyen d'accéder à cette nouvelle dimension spirituelle, ça s'appelle du beau nom de la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est une grâce de Dieu. C'est un cadeau, un présent de Dieu. C'est la foi. Mes frères et sœurs, mettons l'accent sur la foi. Le Seigneur nous l'a donné. C'est un cadeau, c'est vrai. Et on a déjà discuté sur les trois dimensions de la foi. La foi qui sauve, la foi qui saisit la guérison et la délivrance, et puis la foi finalement, eh bien, qui est l'essentiel, la foi qui est le don de foi. Alors, l'homme nouveau, un cœur nouveau, tandis que le vieil homme essaie d'être saint, mais il en est naturellement incapable. Nous l'avons lu ? Oui. Nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, qui, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Pendant des siècles et des siècles, dans les églises chrétiennes de toute obédience, nous avons vu des gens sous une culpabilité à un poids terrible, parce que, en prêche, c'était fais ceci, fais pas cela, etc., etc., etc. C'était terrible. Et moi, je suis sûr que, vous savez ce que l'église représente? Il y a les deux tiers des chrétiens qui ne sont pas ici parce qu'ils ont entendu un discours qui les a repoussés, qui les a mis hors course. Moi, ça, je le sais. Alors, vous avez supporté ces choses. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on a prêché un évangile qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Là, je vais me faire couper la tête. Faites attention, j'en ai qu'une. Je tiens le langage de l'apôtre Paul, mes frères. Si vous lisez bien dans les épîtres, 13 épîtres, l'apôtre Paul ne cesse, à partir de Romains, jusque dans sa dernière épître qui doit être Philémon ou quelque chose comme ça, il ne cesse de prôner la grâce, la foi dans la grâce de Dieu. Et lui, ancien pharisien ultra, eh bien, nous enseigne sur ces choses. Il est bien capable de nous enseigner puisqu'il a connu les deux. Je dirais que Christ est notre véritable identité. Mon identité, c'est pas être chrétien évangélique, hein, appartenir aux assemblées de Dieu de France, dans une église charismatique. Non. Ma véritable identité, c'est Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'autrement, je peux pas rester pasteur chez vous, hein. Ah ben non, ben c'est pas possible. Hein. La nouvelle naissance crée en nous de nouvelles dispositions. Elle crée des envies, elle crée des aspirations, elle crée des désirs. Oui, elle crée des désirs qui sont tout à fait particuliers. Le légalisme produit la peur. La peur de faire des erreurs. Et par conséquent, ce légalisme dont je vous parle, il génère un état permanent d'être jugé à la fois par Dieu et par les autres. Ça devient une psychose. Parce que vous arrivez au culte en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai dit ceci, j'ai fait que des erreurs. » Il y en a qui ne passent plus le pas de la porte. Parce que justement, ils ont peur d'être jugés. Autant la foi crée la confiance, l'approche, le bonheur d'aller vers Dieu, autant le légalisme, c'est autre chose. Une psychose qui asphyxie la liberté et cette approche de Dieu, c'est un asservissement moral, qui plus est spirituel. c'est un état de survie, car le légalisme se nourrit de règles et d'ordonnances, qu'ils soient de l'Ancien Testament ou inspirés par toutes sortes de religions chrétiennes apostates, faut le dire, sorte d'adhésion rigide à une liste de choses qu'il faut faire ou ne pas faire, qui excite dans deux directions, soit l'orgueil parce que j'y arrive, regardez, je suis le meilleur des chrétiens, hein. Toi, t'es même pas capable de dire ça. Je méprise l'autre. Je le juge. Je l'aplatis, en quelque sorte. Soit, c'est l'orgueil d'un côté. C'était le problème des pharisiens qui se sentaient supérieurs, hein, naturellement. Orgueil d'y arriver ou le découragement en cas d'échec. Illusion de mériter ou, de son contraire, de perdre les faveurs de Dieu. C'est ça, le légalisme. Or, la Bible nous dit que celui qui pêche à un des 10 commandements, c'est comme s'il avait enfreint tous les autres. Alors ça nous donne de quoi réfléchir. Je voudrais vous donner quelques petits principes rapidement. Si vous comprenez bien les choses, la loi n'a jamais eu pour but de nous sauver. On est d'accord. Parce qu'autrement, ce sont des œuvres mortes, nous dit le livre des Hébreux. Mais de nous préparer et de nous conduire à accepter la grâce qui est en Jésus-Christ. Il nous est bien dit, sous la plume de l'apôtre Paul, que c'est un professeur, c'est un instituteur, si vous aimez mieux le mot grec, c'est un pédagogue. La loi, elle sert à ça. Et si nous pensons que nous allons être sauvés par la loi, eh bien nous nous trompons. Parce que la loi, elle fait mourir, elle tue. Mais la grâce, elle fait revivre. La foi dans la grâce, elle fait revivre. Encore un autre rappel, que vous connaissez, parce que je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais mémorisez bien pour ceux qui nous rejoignent. La grâce, c'est la main tendue du ciel par Dieu vers l'homme. C'est la main tendue du ciel de Dieu vers l'homme. Et la foi, c'est la main tendue de l'homme vers Dieu, vers le ciel. Vous connaissez le tableau? Je crois que c'est de Michel-Ange, me semble-t-il. Il existe deux sortes de culpabilité, si ça peut intéresser. Il y a celle qui est négative, qui nous éloigne de Dieu et nous presse à le fuir. J'ai péché, Seigneur, je suis pas bien. Si vous attendez d'avoir une auréole autour du cou pour vous approcher, enfin au-dessus de la tête, pour vous approcher du Seigneur, vous pouvez attendre longtemps, hein. Oui, ça c'est une fausse culpabilité exploitée par l'ennemi. Alors, il y a celle qui nous éloigne de Dieu et nous pousse à le fuir, et il y a celle qui est positive, qui nous en rapproche pour chercher son secours et son pardon. Je vais vous donner une illustration, si vous voulez bien, à travers ça. Imaginez-vous quelques instants. Dieu qui est dans le ciel, eh bien, tient chacun, chacune, chaque personne, avec, selon le terme biblique, un cortège d'amour. C'est la grâce? Je crois que c'est décrit dans le livre d'Osée, hein, le prophète Osée. Il nous tient avec un cordage d'amour. C'est pas avec une, comment dire, avec un bateau. C'est pas avec une chaîne, c'est pas avec un lien, c'est avec un cordage d'amour. Quand un chrétien, quand quelqu'un pêche, le coupable coupe volontairement la ficelle qui le redit à Dieu, par culpabilité. Alors Dieu le rattache en faisant un nœud. Ainsi, la ficelle, à chaque fois et à cause du nœud, devient de plus en plus courte et ça le rapproche du Seigneur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je continue. Le rapproche davantage de Dieu. Maintes fois, nous les hommes, nos péchés coupent le fil, ou le cordage d'amour, de raccordement. Et avec chaque nœud supplémentaire, à chaque fois que nous péchons, Dieu continue à nous rapprocher de lui, toujours de plus en plus près, parce qu'il fait toujours des nœuds. Et vous avez toujours moins de ficelles, finalement, parce qu'il y a des nœuds. Vous avez compris un peu le sens de la... Et moi, je voudrais vous dire, derrière cette image, qui ne vaut qu'est-ce qu'elle vaut, hein. Est-ce que ça ne serait pas ça, la grâce? La grâce, c'est ça. Quand le péché a surabondé, quand le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mes frères et sœurs, vous avez péché? Nous péchons tous. Au lieu de fuir le Seigneur, approchons-nous de lui. Et à chaque fois qu'il fait un nœud, ça nous rapproche toujours de plus en plus. Mais c'est pas lui qui coupera le fil. C'est pas lui qui va couper le cordage d'amour. Ça nous rapproche toujours de plus en plus. Vous êtes rassurés? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, hein, pour qu'il y ait des nœuds partout, hein. C'est pas ce que je vous ai dit, hein. Alors Dieu crée en nous, par la nouvelle naissance, disposition, envie, désir, aspiration supérieure. Et tout ça dans un but de plaire à Dieu, non pas par devoir, non pas par peur, non pas par crainte, mais de lui plaire par amour. C'est ça le message de l'Évangile. Cependant, il y a une énorme contradiction, voire même une contestation, voire même une revendication. C'est le sentiment du péché qui est en chacun d'entre nous. Et c'est comme ça. C'est comme ça parce que nous l'avons. Nous sommes des hommes. D'où la culpabilité dont nous avons parlé tout à l'heure, des luttes intérieures, des dualités, des gènes, et des malaises que nous ressentons. Seigneur, ce matin, je ne vais pas au culte parce que ma vie a été tellement entachée cette semaine. Seigneur, je me suis mis en colère et je ne peux pas me présenter devant toi. Seigneur, j'ai fait telle ou telle chose, mais c'est pas possible, alors je reste chez moi. Je regarde la présence du Seigneur à la télévision. Enfin, vous faites comme vous voulez. Ouais. Le sentiment du péché. Toute cette culpabilité, tout ce malaise. Seigneur, je ne chanterai pas ce matin parce que je peux pas ouvrir la bouche. Je suis tellement écrasé parce que j'ai fait ce que j'ai dit. Permettez-moi de vous dire que vous avez tort, mes frères et sœurs. Parce que si vous rapprochez pas du Seigneur, vous allez rester là, en stationnement. On l'a dit. La grâce de Dieu, elle nous est donnée, elle nous est proposée. Et c'est à nous de la croire. De la saisir par la foi. Et c'est formidable de dire, Seigneur, ben écoute, j'ai fait ceci et cela, tu connais ma nature, je pleure devant toi parce que je suis là, prisonnier d'un péché que je n'arrive pas à me défaire. Mais c'est pas vous qui allez vous défaire de votre péché, c'est le Seigneur qui a pris déjà ce péché sur la croix, et c'est dans votre marche, en vous rapprochant de lui, que vous, à un moment donné, vous allez comprendre que c'est lui qui va, véritablement, même s'il fait des nœuds et qu'il vous rapproche de plus en plus, à un moment donné, il va vous délivrer. Et ce qui est la cause de votre tourment, de votre culpabilité mortelle, eh bien, va devenir véritablement une nouvelle dimension pour vous. Parce que vous allez comprendre quelque chose. On ne s'éloigne pas de Dieu. Il y en a un qui nous dit, regarde, t'es un misérable. Tu te rends compte? Et vous savez celui qui dit ça? Il s'appelle le diable. Hein. C'est pas la peine. Hein. Ne prends pas la Sainte Seine. Et pourtant, la Sainte Seine, il nous est dit que c'est une coupe de bénédiction qui nous rappelle le sacrifice de Jésus qui est mort pour nous. Et à chaque fois que je peux m'approcher, même avec mes fautes et mes tourments, avec tout ce qui me... Je prends la Sainte Seine et je remercie le Seigneur qu'il a payé le prix. Notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient du Seigneur, nous l'avons lu tout à l'heure. Bien sûr. Bien sûr. Dans Galates, chapitre 5, nous allons aller un petit peu plus loin. Il est donné cette parole. Verset 16. Verset 16. Paul dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Si je ne suis pas conduit par l'esprit, je suis sous la loi. Mais le contraire est vrai. Je suis libéré à ce moment-là. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas. Vous remarquez l'ordre d'abord de marcher dans l'esprit. De chercher à marcher dans l'esprit. Au lieu de trouver des raisons de mes fautes, de ma culpabilité, de ma corruption et de tout ce que vous voulez, je marche parce que le Seigneur m'a ouvert la route. Je marche et à ce moment-là, en marchant, je ne vais pas l'accomplir. Parce que je suis en route, je ne suis pas en stationnement. Combien il y a de frères et de sœurs qui n'avancent plus dans les églises? Pétrifiés. Madame Lotte. Elle regardait toujours derrière. Et c'est le problème de regarder derrière. Connaissez l'histoire. Et il nous est bien dit, l'esprit est opposé au désir de la chair. Et la chair s'oppose au désir de l'esprit. Mais ça, ce sont des crises, ce sont des dualités que nous avons les uns et les autres, les pasteurs y compris. On n'est pas au-dessus des autres, on est comme les autres. Allez pas nous idéaliser parce que vous allez véritablement... Ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Moi, je suis de Paul, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de Céphas. Arrêtons avec toutes ces affaires. Nous commettons souvent l'erreur suivante, qui est une méprise due à notre ignorance, à notre véritable et nouvelle identité que nous méconnaissons. Nous sommes nés de nouveau, mes frères et sœurs. Nous appartenons à Christ et Christ est en nous. Nous pensons marcher par l'esprit pour autant que nous cessons de servir ou de cesser. Tout simplement de satisfaire les désirs charnels qui sont en nous. Et là, quel combat, hein ? C'est un combat permanent et quotidien. Et je voudrais vous rassurer, on en aura jusqu'à notre dernier soupir. Hein ? Alors n'allez pas penser que sur la terre, vous arriverez à un état de sainteté, où vous êtes trompé de religion. Il faut aller plutôt dans les religions orientales et on va vous donner le mode d'emploi. Hein ? Pas moi, mais ils vont vous donner ce qu'il faut faire. Non. Tant que nous restons dans un corps que Paul appelle un corps d'humiliation, nous serons soumis à toutes sortes de pressions. C'est un combat permanent et continuel. Ça vous rassure ? Non, ça rassure pas. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que Christ va m'aider à cela. Parce que je vais tous les jours, à chaque instant, eh bien marcher avec lui. Alors que nous devrions penser l'inverse, et je vais vous donner un petit peu la clé de la chose, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, âme et esprit, produit la victoire spirituelle à l'extérieur. Souvent, nous combattons à l'extérieur, avec tous les stimuli, tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est le contraire qu'il faut, sur lequel il faut agir. C'est d'abord de l'intérieur pour que l'extérieur soit modifié, changé. Voilà. C'est vrai que il y a des choses qui nous affligent. Et nous nous affligeons souvent nous-mêmes de notre triste et misérable condition. Quelquefois, on se dit, mais comment je suis ? Ouais. Mais souvent, on est en train de batailler avec l'extérieur. Ceci, cela, je me cache, je ne bois pas, je mange pas, je goûte pas, etc., etc. Mais ça, c'est l'extérieur. Il restera toujours le même, l'extérieur. Mais le problème, c'est que Dieu nous renvoie dans cette leçon que nous prenons ce matin, c'est qu'il nous renvoie à nous-mêmes par rapport à l'intérieur. Si l'intérieur est vainqueur, l'extérieur n'aura plus aucun effet sur vous. C'est là où nous triomphons. Victoire spirituelle à l'extérieur que nous cherchons sur les agissements et les agitations, les appétits charnels, les stimuli de notre nature charnienne. Tout est pour nous la conscience et la présence de l'Esprit Saint en nous. Et j'ai marqué ce matin les choses. Si nous croyons que Christ vit en nous et que moi je vis en lui, mais nous avons la force dont nous avons besoin. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous triomphons à ce moment-là. Mais nos yeux nous trompent, nos sentiments nous trompent, nos appréciations nous trompent, nos ressentis nous trompent. Or, le ressenti, c'est le contraire de la foi. Je ressens. Ouais. Eh bien, vous savez ce que vous allez ressentir ? C'est que vous vous trompez. Et vous n'allez peut-être pas vous le ressentir tout de suite, la tromperie. Parce que le diable, lui, il nous anime par rapport à notre nature charnelle. Et je peux vous dire qu'il connaît son affaire. Hein. Et si nous portons une attention exagérée, culpabilisante, insistante du péché et de ses artifices tentateurs et séducteurs et dominateurs, alors à ce moment-là, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Hein. Vous avez compris ? C'est à l'intérieur. Christ doit prendre toujours de plus en plus de place à l'intérieur de nous-mêmes. Sa parole nous inspire. Les messages du Nouveau Testament, prenons-les, puisqu'on parle de grâce, eh bien, cela doit nous nourrir en permanence. Pour vivre un état permanent de paix et de repos, nous devons simplement puiser en nous-mêmes ce que Dieu y a placé. Et qu'est-ce que Dieu a placé avec la nouvelle naissance ? Christ, l'Esprit de Christ à l'intérieur, le baptême du Saint-Esprit. Ça fait partie des deux dimensions du baptême de l'Esprit. D'un côté, il y a les dons de puissance, ou les dons de révélation. Et puis d'un autre côté, il y a les fruits. Et moi, je voudrais vous dire que les fruits sont plus importants que les dons. Parce que quand on regarde Corinthiens, il nous est dit que les dons passeront. Alors ne nous prenons pas la tête avec les dons. Merci Seigneur de ce que tu les donnes. Et nous voulons les rechercher. Nous voulons les manifester au milieu de nous parce qu'ils font du bien à l'Église. Pour ceux qui savent les gérer. Parce qu'ils peuvent faire du mal pour ceux qui ne savent pas les gérer, les dons spirituels. Un mal terrible. Mais d'un autre côté, nous voyons que les fruits de l'Esprit, vous les connaissez, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 20, je ne vais pas vous les situer, les rappeler, mais toujours est-il que ça, c'est l'identité, c'est la personnalité de Christ, les fruits. Et nous pouvons dire que, à ce moment-là, nous sommes spirituellement, virtuellement, moralement vainqueurs, et de recourir sans cesse, par la prière, à ces victoires exprimées dans le « tout est accompli » de la croix. Il faut savoir si tout est accompli ou si tout reste à faire. Il faut savoir si Jésus un jour est mort sur la croix ou il n'y est pas mort. Il faut savoir si véritablement sa parole est une vérité ou un mensonge. Et si le « tout accompli » est réalisé, eh bien il doit être réalisé pour moi-même. Je me repose en lui. Sur toi, je me repose. Connaissez ce vieux cantique? Je me repose. C'est une disposition morale et spirituelle d'abandon où je me livre complètement. Oui, que je me livre complètement à lui. Alors le sachant, et vous le savez, et je suis chargé de vous le répéter ce matin, le sachant en le vivant quotidiennement, nous nous faisons plus de conditionner ou altérer nos états d'âme, le fonctionnement des chrétiens par des états d'âme. Il y a de la joie, je suis joyeux. Il y a de la tristesse, je suis triste. C'est vrai, dans un certain sens, il y a aussi quelque chose à tenir compte. Mais écoutez, si vous regardez les nouvelles et si vous imprégnez en boucle de tout ce qui arrive dans les médias, y a de quoi vraiment être heureux dans ce monde. Ah oui, c'est vrai. Ça finit par être agaçant à la fin. Parce que bon, on sait très bien qu'il y a de l'exploitation et puis il y a toutes sortes de choses. C'est des visées qui ne sont pas toujours très claires derrière. Il ne faut pas non plus conditionnement. Parce que le monde est conditionné, il faut le dire. Mais néanmoins, si je m'inspire de Jésus, si je m'inspire de son exemple, si je m'inspire de sa parole, et que par-dessus tout cela, je me laisse conduire par l'esprit, mais je ne vais pas me laisser déstabiliser par ceci ou par cela, par mes états d'âme, par un état d'esprit ou tout simplement de cœur, en nous efforçant d'accomplir de toute force ce que nous croyons à tort. Eh bien, nous donner des conditions idéales pour être agréable à Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur, vous avez compris, sans la foi. Alors ne parlons pas d'une foi qui ne serait pas la foi, que nous appellerions peut-être croyance religieuse, mais moi je vous parle de la foi spirituelle, de la foi qui vient de l'Esprit, qui est née de l'Esprit. Vous le savez aussi bien que moi, la loi est provocatrice du péché. C'est clair. C'est parce que la loi me dit tu ne feras pas ci, ceci et cela. C'est quoi? Et quand je suis dans l'interdit, j'ai envie de le faire quand même. La loi provoque le péché par la défense. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. Et lorsqu'il nous arrive de pécher, nous nous sentons si indignes, si insuffisants, nous laissons au diable nous voler les bénéfices de la vie et de la victoire du Seigneur. Et ça, on s'en aperçoit pas. C'est tellement subtil. Voilà. On se dit... C'est comme le temps qui change, vous savez, la météo, d'un un moment vous avez un grand soleil, et puis après c'est un nuage noir qui passe sur votre vie. C'est au-dessus de notre tête, eh oui. La loi ou la grâce, c'est un choix, mes frères et sœurs. Et si je suis encore pour quelque temps avec vous, vous entendrez ce genre de message. Je prêche la grâce de Dieu, je prêche la foi en Jésus-Christ. Parce qu'on est quand même beaucoup plus heureux dans cette dimension que dans l'autre. J'ai connu un peu les deux. Quand je me suis converti, je faisais partie d'une église, comment dire, réformée néerlandaise. Et c'était véritablement le rigorisme, comme dans les églises calvinistes des siècles précédents, hein, la réforme. Ah oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc., etc. Quand je suis venu dans le milieu évangélique, où j'ai grandi, je me suis converti, je me suis fait baptiser, tout ça, baptisé du Saint-Esprit, c'était le jour et la nuit. Et là, j'ai commencé, finalement, eh bien, à vivre. Je vous dirai, pour ceux qui sont peut-être en lutte et en but par rapport à ce problème, c'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait, hein. Pour m'extraire de cette doctrine, parce que d'origine catholique, du devoir, des bonnes œuvres, etc., etc., ensuite, dans l'église calviniste, ça n'a pas été tout facile, hein. Si je vous disais qu'il m'a fallu peut-être 3, 4, 5 ans avant d'arriver véritablement à comprendre tout cela. Alors ne vous découragez pas, vous venez, vous avez peut-être des origines religieuses et vous êtes encore persécuté par ceci et cela. Mais le Seigneur va vous aider, l'Esprit de Dieu va vous remplir et vous donner la véritable liberté. Je vais terminer d'ici quelques instants. Il existe 3 philosophies religieuses majeures qui se retrouvent souvent au cœur des croyances universelles. C'est-à-dire que on les trouve dans le bouddhisme, on les trouve dans l'hindouisme, on les trouve dans toutes les déclinaisons de la croyance humaine. Mais malheureusement, on les trouve également dans les églises évangéliques. Vous me direz, mais c'est pas possible. Eh oui, c'est possible. Quand on lit l'épître aux Galates, eh ben c'est exactement le fort de l'écriture de Paul qui les supplie en disant « Vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous êtes retourné à des rudiments qui vous asservissent, vous êtes devenus des esclaves. » Esclaves des traditions, esclaves de théologie, esclaves de philosophie, esclaves de toutes sortes de choses qui vous ont complètement dénaturé l'esprit et donc en conséquence de votre vie avec Dieu, votre relation. Alors, on va les regarder et ça sera pour terminer. Dans Galates, chapitre 2. Alors, je me suis peut-être trompé, c'est Colossiens, excusez-moi. Je rectifie, Colossiens. Chapitre 2 et verset 16. Vous connaissez, hein? Paul met en garde ces chrétiens et il les avertit qu'il y a un danger, un grand danger, quelque chose de très sévère. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, hein? Mais le corps, il est en Christ. Si vous voulez une autre traduction, mais la vie, la vraie vie chrétienne, elle est en Jésus. Que personne sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course de votre vocation chrétienne. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ, mais je suis ressuscité avec Jésus, au principe élémentaire du monde. Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne goûte pas, ne prends pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes religieuses. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair, l'orgueil. Trois éléments essentiels dont nous devons nous souvenir. C'est le légalisme, c'est le culte des anges, et c'est ne prends pas, ne goûte pas, qui se résume par trois pensées de dénaturation de la foi. Le légalisme, l'illuminisme et l'ascétisme. D'accord? Et combien on le voit dans les églises? Le légalisme, l'illuminisme et l'ascétisme. Et vous savez qu'en géographie, un isthme, c'est tout simplement une terre qui va nulle part. C'est pas vrai? Ah, ben on va donner des cours de géographie, là. Oui, ça va nulle part, l'isthme. Quand vous allez à Quiberon, voilà, il faut prendre le bateau pour aller plus loin, mais autrement ça va plus. Vous arrivez à un bout. Et ces doctrines en isthme, quelque part, eh bien, elles vous mènent nulle part. Alors, le légalisme, que personne ne vous juge en fonction de votre attitude, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous faites. Gardez votre liberté pour vous devant Dieu. Liberté de pureté, liberté pure. Et les autres, ils n'ont pas le droit de vous juger. Ça, c'est l'égalisme. L'illuminisme, le culte des anges. Moi, j'ai des visions, j'ai des révélations, etc., etc. Ça, faut faire attention, parce que quand on veut toucher un petit peu trop, appuyer sur le bouton, c'est pas Dieu qu'on va rencontrer. On frise les limites et les frontières du mysticisme, et c'est peut-être pas Dieu qu'on va rencontrer. Parce que le diable est capable de nous donner des choses, hein. Il se déguise en ange de lumière. Et puis l'ascétisme, c'est ne goûte pas, ne mange pas. Si vous voulez maigrir, c'est le meilleur moyen. Enfin, moi, j'y recours très rarement, c'est pour ça que vous me voyez. Le style, voilà, hein. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Moi, je me tairai pas sur ça, hein. Pas question. Je ne me tairai pas. Parce que c'est un danger pour les chrétiens, c'est un danger pour les églises. Et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Paul. Alors, le légalisme, il porte, nous l'avons dit, sur le manger et le boire. Après tout, ça regarde chacun, hein, mais pas l'imposer aux autres. Au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Mais Paul nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ça peut être la tenue vestimentaire. Je rappelle le principe, la tenue vestimentaire doit être décente. Après le reste, si vous vous habillez en bleu ou en rouge, ça ne me regarde pas. Et le Seigneur n'y fait pas attention. La décence, ça c'est important, de ne pas choquer la conscience des autres. Ça, mais le reste. Que vous fassiez ceci et cela, mais ça, c'est votre responsabilité. Mais combien de fois dans les églises on a voulu normaliser en disant voilà, vous portez la cravate, vous devez faire ceci, pas pour les dames, la cravate, pour nous. Mais bon, ceci et cela, vous devez venir. Mais écoutez, la décence, on est d'accord? Alors on s'est jugé combien de fois dans les églises? Ouais. Moi j'ai un beau chapeau. Vous avez vu avec mon chapeau? Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air un peu plus beau. Bon, mais toujours est-il que quand je viens à la salle, je l'enlève en entrant et je ne le mets pas pendant les cultes parce que je suis pas juif. Mais bon, pour les dames, c'est pareil. Hein. On n'impose pas aux autres ce que nous pensons. On ne l'impose pas. Et moi, j'ai mis les choses au point quand on est arrivé. Vous faites en conscience ce que vous avez besoin de faire devant Dieu parce que c'est votre conscience, elle est respectable. Mais de vouloir marginaliser tout le monde en disant « moi je le fais, tu vas le faire ». Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas suffisamment saint. Parce que tu, ceci et cela, faut arrêter, c'est du légalisme. C'est du légalisme, mes frères. N'allons pas dire autre chose. Alors, l'illuminisme, on l'a vu, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte d'aisance ne vous ravisse le prix de la course, c'est-à-dire vous faire tomber spirituellement, tandis qu'il s'abandonne à des visions et des pensées charnelles, qui ne s'attache pas à Jésus, mais qui s'attache à des choses qui sont, comment dire, vaporeuses, nébuleuses, qui n'ont pas de fondement biblique. Ça, c'est l'illuminisme. Et ne prends pas, ne goûte pas, ne mange pas, ne bois pas, ne regarde pas. Allez, il faut mourir. Hein. C'est plus la peine. Hein. Parce que Dieu nous a créés, il nous a donné la vie pour que nous puissions manger et boire, mais tout en remerciant le Seigneur pour sa grâce de nous avoir donné tout cela. En le bénissant. Tous ont probablement, nous dit le texte, l'expression d'un désir sincère de plaire, et ça je n'irai pas dire le contraire, de plaire à Dieu. Cependant, c'est une négation absolue du plan rédempteur divin. Parce que c'est vouloir se sauver par nos efforts, par une attitude, par un comportement, c'est vouloir se sauver soi-même, faire sa propre sainteté, se racheter, mériter ou gagner son ciel. Et c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Alors, au lieu de marcher par l'esprit, de vivre par la grâce, réagir dans la foi, nous fonctionnons sous des contraintes de la loi, des efforts pour surmonter ceci. Et vite, nous serons rejoints par le découragement, l'illusion ou la désillusion, l'épuisement moral et spirituel. Si je prends le texte de Paul, et lui il peut nous en parler quand même, quand il nous dit ça, au chapitre 7, verset 19, il nous dit ces paroles, « Car je ne fais pas le bien que je veux. » On se reconnaît, hein. J'ai la bonne volonté, bien sûr. « Et je fais le mal que je ne veux pas. » C'est contraire à ce que je veux, mais pourtant je le fais quand même. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Or, attention, le péché c'est une réalité, mais il ne faut pas non plus accentuer, hein, parce qu'on peut se donner des alibis. Je trouve donc en moi cette loi, c'est une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, c'est-à-dire ma vie spirituelle, ça c'est sûr, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il va s'exprimer, Paul, et c'est à ce moment-là que sa vie a changé. C'est à ce moment-là que tout a basculé véritablement vers la liberté en Christ. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est une petite phrase, mais je pense que ça valait sa valeur certainement de jours, peut-être de semaines et de mois de prière, voire peut-être des années de prière pour Paul, pour se défaire de ce carcan. Misérable que je suis, qui va me délivrer? Moi, quelquefois, je me le dis à moi-même, mais Seigneur, qui? Véritablement, je voudrais être autrement, je suis ce que je suis. Mais quel combat! Mais il dira, parce qu'il a trouvé la lumière, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » On y reviendra sur ce sujet. Et je finis avec cette parole que Paul nous laisse. Et qui nous montre bien l'osmose qu'il y a entre nous et Christ, Christ et nous. Je cite, c'est une traduction moderne. « La mort de Christ, nous dit Paul, La mort de Christ à la croix a été aussi la mienne. Je reste crucifié avec lui. Et si je continue à vivre, ce qui est le cas de chacun d'entre nous en tant que chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ vivant qui agit et reproduit dans ma vie ce qu'il est. Formidable. Moi, je trouve que cette traduction, elle est encore plus amplifiée que celle de second. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Je reste de mon temps, le reste de mon temps de vie sur cette terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi. Souvenons-nous que nous ne pouvons jamais rien faire nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu seulement. Alors ouvrons notre cœur, ouvrons tout grand notre conscience, notre esprit, et laissons-nous submerger par ces vagues de grâce, les vagues de cette faveur que Dieu nous a donnée. Et le seul moyen, la main qui nous est nécessaire, c'est pas celle-ci, mais c'est la main de la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et ça, je crois que ce que nous avons besoin de faire des progrès. Et vous savez, la foi, elle donne la joie. La foi, elle crée la paix. Elle crée le repos. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans le repos que sera votre salut. Alors merci Seigneur pour ta parole. Nous allons prier quelques instants si vous voulez. Demandez à Dieu sa grâce et nous reviendrons sur ce sujet. Moi, pour moi, il est tellement important. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour sa parole. C'est vrai qu'elle peut être difficile. Moi, je te prie particulièrement pour les amis qui se sont joints à nous tout nouveaux. Et c'est vrai que c'est un texte difficile. Mais Seigneur, par l'Esprit de Dieu, tu peux leur donner de comprendre qu'en effet, ils sont appelés de toi. Par l'Esprit de Dieu, tu peux les convaincre qu'il n'y a qu'un seul Sauveur et Seigneur, c'est Jésus-Christ. Ils peuvent s'approcher de toi, ils peuvent véritablement te demander pardon pour leur vie, leur faute, et tu es capable de les pardonner, tu es capable de les sauver. Et puis moi, je te prie pour mes frères et mes sœurs, ceux qui ont déjà saisi toute cette dimension de liberté, alors encourage-les à aller plus loin. Puis moi, je te prie également pour tous ceux qui sont dans le trouble, dans le questionnement, dans, Seigneur, l'hésitation, afin qu'ils comprennent que, en effet, naître de nouveau, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Même s'il y a des choses anciennes qui appartiennent à notre vie de chrétien évangélique, les choses anciennes sont passées. Parce que tu nous as pas sauvés pour que nous restions, statiques, mais tu nous as sauvés pour que nous puissions être véritablement en mouvement. Mouvement selon l'Esprit, le vent de l'Esprit. Seigneur, tu nous bénis les uns et les autres. Bénis mes frères qui pleurent, qui souffrent, qui sont là, Père éternel, à s'interroger peut-être de la validité de leur vie chrétienne. Mais Seigneur, tu les aimes autant que les autres, mais donne-leur de comprendre que Seigneur, il faut marcher avec Dieu. Il faut marcher avec toi. Il faut te laisser toute la place. Seigneur, tu connais les combats et les luttes, tu connais les bagarres, tu connais le défi, Seigneur, qui sont lancés sur notre vie. Mais Seigneur, tu nous dis, par la foi, résistez-lui, le diable, avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Seigneur, merci pour cette parole de rapprochement. Merci pour les nœuds que tu fais à ce cordage d'amour. Parce que plus tu fais nœuds, plus nous sommes attirés vers toi, dans la mesure où nous nous repentons, et dans la mesure où nous ne pouvons plus supporter cette vie qui nous dégoûte à cause de notre corruption. Et que tu nous tires de plus en plus, et à un moment donné, eh bien, c'est toi qui nous donnes la vraie liberté et la vraie vie. Merci Jésus. Amen.